Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et à toutes. C'est un deuxième entretien dans cette série consacrée à Sœur Cécile Marie de la Sainte Face, carmélite, décédée en odeur de sainteté en 2016. Nous avons évoqué hier les quelques grandes lignes de sa vie. Aujourd'hui, on va rentrer dans ce cœur battant de sa vocation, sa mission carmélitaine, vécue dans l'humilité, vécue dans cette douce obéissance et dans l'amour au micro cette semaine. Et pour évoquer cette belle et grande vocation rayonnante de Sœur Cécile Marie de la Sainte Face, c'est le Père Charles Formery, chapelain ici au sanctuaire de Lourdes. Bonjour Père Charles.
Bonjour Nathalie.
Alors, ravi de vous retrouver, ravi de poursuivre un peu cette découverte de cette belle vie et puis de ce cœur de carmélite, voilà, qui rayonnait et qui rayonne encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a pu l'attirer vers l'ordre du Carmel parmi toutes ces vocations aussi possible qui pouvait se présenter à elle? Pourquoi le choix du Carmel? Alors, très précisément, et merci.
Alors, le choix du Carmel parce que en terminale, comme on l'avait dit lors de notre première émission, à laquelle je prie nos auditeurs de bien vouloir se référer s'ils le veulent, nous avons vu donc en terminale, sous la houlette d'un bon prof de caté, elle va se mettre à l'oraison, qui est donc ce commerce intime où l'on s'entretient souvent seul à seul avec celui dont on se sait aimer. C'est une simple conversation avec Jésus. Thérèse de Lisieux dira, elle, plus simplement encore, la prière c'est un élan du cœur. Le curé d'Ars dira, la prière c'est dire ses croix. Vous voyez, donc elle fait cela, et c'est comme si elle avait voulu continuer de faire cela, et où mieux le faire qu'au Carmel, qui avait été réformé par Sainte Thérèse d'Avila, donc qui est l'autrice de cette définition que nous avons dit. L'oraison, c'est un commerce intime où l'on s'entretient seul à seul. Voilà. Vous voyez, donc elle veut rester sous l'égide de la Madre, de cette grande sainte du XVIe siècle. Voilà. L'autre raison que nous avons évoquée aussi lors de la première émission, c'est que elle veut appartenir à Marie et que le Carmel appartient tout entier à Marie, comme on a pu lui dire. Donc elle se sent bien là. Voilà. Alors elle va, sa vocation va suivre des étapes. Elle va être amoureuse d'un garçon, comme nous avions dit, et il lui manque un petit quelque chose. Le Seigneur lui fait désirer un petit quelque chose. Il est très important de voir que, pour Cécilia Maria, la vocation, l'appel de Jésus, se fait sous la forme d'une insufflation de désir, d'un insufflement de désir, je ne sais pas. Oui, Jésus nous appelle, non pas en posant un carcan, vous voyez, sur nos épaules, qui serait la vocation, mais en nous faisant désirer ce à quoi il nous appelle. Alors, elle désirait autre chose, et elle a suivi son désir. Donc, c'est en Europe, qu'elle va découvrir sa vocation, qui est pour elle l'aboutissement d'un désir profond. Alors, si vous permettez, Nathalie, je lis quelques affaires de cette vocation. Lorsque nous sommes arrivés à Avila, il était 6h du soir, en plein hiver, il faisait déjà presque nuit, nous sommes allés au monastère de l'Incarnation. J'ai croisé quelques jeunes filles, responsables du musée, qui allaient rendre les clés aux sœurs. Donc elle suit les sœurs, et elle suit les jeunes filles qui vont rendre les clés aux sœurs, elle va pouvoir comme ça rencontrer une sœur. Elle ne va pas vraiment la rencontrer, mais elle va entendre la voix d'une sœur qui lui parle à travers le tourniquet. Le tourniquet, c'est un espèce de passe-plat dans les Carmels, qui tourne autour d'un axe, vous voyez, et par laquelle on se fait passer des choses, et à travers lequel on parle. Donc il y a une sœur qui lui parle. Alors je laisse la parole à Cécilia Maria. « J'avais l'impression de parler avec Sainte Thérèse elle-même, mais je me suis mise à pleurer et pleurer. Les deux amis qui étaient entrés avec moi nous laissèrent en tête à tête. La petite sœur, qui s'appelait Thérèse de Jésus, donc comme Thérèse d'Avila d'ailleurs, me dit qu'elle voyait en moi une vocation aussi limpide que l'eau, et de ne pas attendre qu'un ange vienne me la dire à l'oreille. » Intérieurement, pendant que je pleurais, je sentis que l'amour infini de Dieu s'offrait à moi dans sa plénitude. Un peu comme si tu découvrais soudain tout l'amour qu'une personne que tu aimes a pour toi. Mais que jamais, au grand jamais, tu n'aurais imaginé autant d'amour. Voilà, donc, elle rencontre cette jeune carmélite, on ne sait pas si c'est une jeune carmélite, cette carmélite qui lui dit qu'elle a une vocation claire, et qui en même temps, vous voyez, derrière le tourniquet, donc il ne s'impose pas. C'est comme ça qu'il faudrait faire, voyez, pour nos jeunes, peut-être suggérer sans jamais rien imposer. Et donc, voilà que cette vocation, la vocation à une vie consacrée, éclot très clairement dans le cœur de Cécilia Maria. Voilà ce qu'on peut dire.
Alors, continuez.
Je continue.
Oui.
Alors, elle va, malgré tout cela, elle écrit « Ces signes et ces grâces de Dieu, je l'avoue, ne me suffisaient pas pour me sentir sûre de moi. » Donc, elle va reprendre des études de lettres. Elle va faire une tentative au Carmel de Buenos Aires, où elle y reste 5 mois, mais où elle ne se plaît pas. Et donc, elle ressort plus attirée par un Carmel qui est au nord de cette ville, le Carmel de Santa Fe. Ses parents vont lui demander de bien vouloir étudier un peu. Ils sont de mèche avec son père spirituel. Et elle fait des études d'infirmière pendant 3 ans, après quoi elle peut rentrer au Carmel. Voilà ce qu'elle écrit. Dans le doute, pendant ces 3 années d'études, dans le doute, je revenais chaque année frapper à la porte au cas où les sœurs auraient changé d'avis. Mon obéissance n'a pas été parfaite. Voilà. J'obtins enfin mon diplôme et le 8 décembre 97, la Vierge me reçut chez elle. Durant ces années, voilà ce qu'elle dit sur sa vie au monastère. Durant ces années, notre très doux Jésus m'a fait don de la persévérance et d'une joie très profonde malgré ma pauvreté. La joie de n'appartenir qu'à lui, d'être son épouse, la joie de pouvoir, dans ma petitesse, l'aider à sauver des âmes, aider les prêtres qui sont ses ministres, le Saint-Père et l'église pèlerine de Santa Fe, et notre pauvre patrie souffrante.
Aujourd'hui, pourquoi plus, rentrer au Carmel?
Bien sûr qu'il est possible de s'octroyer cet immense bonheur d'être avec Jésus.
Vous parlez de bonheur.
Pourquoi pas ne pas être avec Jésus, qui est joie infinie, comme disait Sainte Thérèse des Andes. Hein. Pourquoi pas? Thérèse de Lisieux écrit « Je suis entrée au Carmel pour me cacher ». Et elle dira aussi dans un poème fort connu « À des amants, il faut la solitude ». Donc elle rentre en fait pour aimer. Et bien évidemment qu'il est possible de s'accorder à soi-même cet amour que Jésus veut donner. Voilà. Alors cet amour, évidemment, fructifie comme toute union. Il est fécond. Il est fécond en salut, en rédemption. Et Thérèse de Lisieux écrira aussi qu'elle est rentrée au Carmel afin de prier pour les prêtres. Voilà.
Un point commun avec cette jeune femme carmélite. Elle est entrée au Carmel pour donner sa vie, pour prier pour les prêtres, pour prier pour le Saint-Père.
On pourrait dire par voie de conséquence. Elle rentre d'abord pour l'amour, pour l'union, pour être seule avec leur bien-aimé. Mais cet amour est forcément fécond, fécond en rédemption. Vous voyez, c'est une conséquence logique.
Quelles sont les luttes pour une telle vocation? Quels sont les combats pour une telle... Vous avez parlé aussi de persévérance chez Sœur Cécilia Maria.
C'est elle qui en parlait, tout à fait. Ouais. Eh bien, le démon ne veut pas de cet amour avec Jésus. Hein. Il ne veut pas le bonheur de l'homme ni le bonheur de Jésus. Or, ce bonheur, c'est l'union. Et donc, il essaye de l'empêcher, hein, très clairement. Et donc, il faut lui résister, non pas en le regardant, non pas en lui parlant, mais en regardant le bien-aimé, en regardant Jésus, vous voyez. Parce que si on recommence à regarder la tempête, comme a fait Saint-Pierre, eh bien, on s'enfonce dans la mer. Alors que si on regarde fixement Jésus, eh bien, on avance tranquillement vers lui. Le curé d'Ars, vous savez, était réveillé la nuit par le démon qui essayait de l'épuiser pour que le lendemain au confessionnal, il soit un cariatre. Alors le curé d'Ars voyait le démon et lui disait « Ah, ce n'est que vous ». Il se retournait dans son lit et continuait de dormir. Vous voyez, donc, il usait d'indifférence à l'égard du démon. Il le vexait de cette façon, vous voyez. Et donc, c'est vrai que le démon s'interpose dans ce genre de choses et il faut savoir lutter contre lui tout simplement en regardant Jésus et en ne faisant pas cas de tous les embêtements.
Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette courte vie et cette courte biographie de cette jeune femme carmélite?
L'héroïcité des vertus de cette jeune femme. C'est-à-dire qu'elle est rentrée avec un caractère très fort, qu'elle a su tempérer. Son tempérament est magnifique. Donc, elle est d'une grande sincérité qui frise l'indiscrétion. Et d'ailleurs, elle est, d'après sa prieure, parfaitement indiscrète. Un jour que la prieure veut lui confier le tour, c'est-à-dire le soin de ceux qui se présentent au monastère, elle lui dit « Vous avez la charité, mais aucune discrétion. Le reconnaissez-vous ? » Et Cécilia Maria de répondre « Totalement. » Et voilà que l'humilité de Cécilia Maria emporte la décision de sa prieure de lui confier cette charge. Vous voyez. Très indiscrète, au point qu'elle avait dit à un jeune prêtre qui n'avait pas mis les pieds au Carmel pendant 3 ans, mais qui revient atteint d'une calvitie précoce, voilà, qui n'avait pas lieu avant. Alors elle lui dit, voilà, père, tu n'as plus ta frange. Voilà, donc elle pouvait dire des choses qui pouvaient être désagréables, mais elle apprend à se taire, à laisser parler les autres avant elle. Et donc elle devient une femme parfaite, selon ce que dit Saint Jacques dans sa lettre au chapitre 3. Il dit, celui qui sait mettre un frein à sa langue est un homme parfait, capable de mettre un frein à tous les instincts de son corps. Et donc, certainement que Cecilia Maria, oui, atteint la perfection par la tenue de sa langue. Donc elle tempère un caractère très fort de cette façon, et donc on peut dire qu'elle est héroïque au niveau de ses vertus, qu'elle mérite bien de monter pour cette raison sur les autels.
Père Charles Formery, chapelain ici à Lourdes, dans cette cité mariale où vous êtes vous-même au fond.
Pour mon bonheur.
Pour votre bonheur, votre fidélité dans votre sacerdoce et au service des âmes, ici,
oui.
Ici-bas. Voilà.
Oui.
Je vous propose de vous retrouver ici.
Merci
même,
Nathalie.
À la même heure, avec ce sourire de Dieu, ce sourire qui apparaît aussi sur ce visage de Sœur Cécile Marie de la Sainte Face, et avec ce petit livre que je conseille, si vous souhaitez découvrir cette belle vie et puis l'offrir pourquoi pas autour de vous, le sourire de Dieu avec un sous-titre, un sourire qui a fait le tour du monde, paru aux éditions du Carmel. Merci, à demain.